Les jardins suspendus de Babylone furent l'une des merveilles du monde antique. Aujourd'hui, cette ville en ruine est habitée par les chacals et les scorpions. Petra, la capitale du royaume d'Édom, était taillée dans le roc. L'un des premiers voyageurs qui a visité cette ville l'a décrit de la façon suivante. La face des rochers est taillée avec toute la symétrie et toute la régularité de l'art. On y voit des colonnes, des lignes de corridors, des escaliers taillés dans le roc et un nombre incroyable de grottes de toutes dimensions servant d'habitation ou de lieu de sépulture. On voit des enfoncements de 9 à 10 mètres de haut avec des autels, des pyramides, des colonnes et des obélisques. D'innombrables chambres sont creusées dans le roc. L'entrée est embellie parce que l'architecture peut présenter de plus riches, de plus variés et de plus fantastiques. Fin de citation. Tous les creux de rochers qui grouillaient de monde sont aujourd'hui habités par les vautours, les chats-huants et les scorpions. Dieu a fait descendre l'orgueilleux Édom de son nid d'aigle. Je continue à lire dans le livre du prophète Abdias. Si des voleurs entraient chez toi ou des pillards de nuit, comme tu es ruiné, ils ne prendraient que ce qui leur suffit. Si des vendangeurs entraient chez toi, ne laisseraient-ils pas des grappillages? Verset 5. Ce passage se compose de la vision d'Abdias et d'un commentaire. Voyant Édom complètement dévasté, il s'écrie « Comme tu es ruiné !» Cette vision prophétique est insérée à l'intérieur d'un petit discours qui fait ressortir encore davantage la ruine totale d'Édom. Le prophète Jérémie reproduit uniquement le commentaire quand il écrit « Si des vendangeurs pénétraient chez toi, ne laisseraient-ils pas que ce qui se grappille ? Et s'il s'agissait de voleurs nocturnes, ne détruiraient-ils pas jusqu'à ce qu'ils en aient assez ?» Lorsqu'on reçoit la visite fort désagréable de voleurs ou de pillards, en général, ils ne prennent que ce qui les intéresse, ce qui se monnaie facilement sur le marché noir, mais ne s'embarrassent pas d'assiettes banales ou de meubles IKEA. C'est un peu pareil pour les vendangeurs. Même s'ils voulaient récolter la totalité des grappes de raisin, ils n'y arriveraient pas, car il y en a toujours quelques-unes qui sont cachées derrière les feuilles et qu'on ne voit pas, et puis il tombe forcément des grains de raisin à terre. Mais, dit Abdias, il n'en sera pas ainsi du royaume d'Édom, car il sera entièrement et systématiquement mis à sac. Sa ruine sera totale, car après le passage des envahisseurs, il ne restera absolument rien de toutes ses richesses. Je continue le texte. Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses cachettes sont éventrées. Verset 6. En hébreu, le mot pour cachette est littéralement chose cachée. Jérémie cite aussi ce verset, mais remplace chose cachée par lieu secret. L'historien grec Diodore Sicule rapporte que les Édomites cachaient leurs richesses dans des trous taillés dans le roc. Le pays d'Édom était montagneux et comportait plus de rochers que de terres agricoles meubles. Cependant, la partie orientale était très fertile et on y cultivait la vigne. Mais ce qui avait fait la richesse d'Édom étaient les rapines auxquelles il se livrait, ainsi que sa position géographique idéale pour faire du commerce, car il était situé sur les routes de caravanes, entre la Syrie d'un côté et l'Arabie et l'Égypte de l'autre. Abdias, qui voit la ruine des Édomites, parle au passé, car la fin de ce royaume est une certitude. Ses ennemis ne laisseront pas une pierre qui ne soit retournée, pas un creux qui ne soit fouillé. Le pays sera passé au peigne fin, pour ainsi dire, afin d'en extraire la moindre richesse. Je continue avec un passage un peu difficile. « Tous tes alliés ont assisté l'ennemi qui t'a expulsé de tes frontières et ont refusé d'accepter tes fugitifs qui sont venus à eux. Ceux qui mangeaient le pain avec toi t'ont trahi et t'ont vaincu. Il n'y a en toi aucun discernement. Verset 7. Parce que Ésaü a trahi son frère, parce que les Édomites se sont joints aux ennemis de Juda pour mettre à sac Jérusalem et piéger les fuyards, ils seront sévèrement punis. Sous Joram, roi de Juda, Édom avait accompagné les Philistins et les Arabes pour attaquer Juda, puis avait vendu des Israélites aux villes phéniciennes de Tyr et de Sidon qui faisaient du trafic d'esclaves. Un peu moins de 3 siècles plus tard, les Babyloniens envahirent Juda et mirent fin à sa souveraineté politique. Environ 5 ans après cette catastrophe, Nabuchodonosor revint en Palestine direction l'Égypte. Au passage, il écrasa les Moabites et les Ammonites, avec qui les Édomites avaient formé une confédération pour résister à cette agression. Vaincus, les Édomites se réfugièrent dans leurs cavernes, mais leur répit fut de courte durée, car ils furent trahis par leurs meilleurs amis qui les chassèrent de leur pays. Voici comment ils se firent expulser de chez eux. Les Arabes nabatéens, qui entretenaient des liens commerciaux étroits et des relations très cordiales avec les Édomites, vinrent leur rendre une visite de courtoisie et furent invités à un grand banquet. Mais une fois à l'intérieur de Pétra, les Nabatéens sortirent leurs armes, massacrèrent tous les gardes et s'emparèrent de la ville. Sur ces entrefaites, les guerriers nabatéens rappliquèrent et ce fut un jeu d'enfants pour eux de prendre possession de tout le territoire de la montagne de Séir. Les Édomites, ainsi chassés, cherchèrent refuge chez les Moabites et les Ammonites, leurs voisins et anciens alliés, mais furent éconduits. L'enchaînement de ces événements fut un choc de magnitude maximum pour ce peuple qui fut totalement pris par surprise. Édom était renommé pour ses hommes sages, eux qui jusque-là avaient fait preuve d'une grande sagacité et de beaucoup de prudence, se firent berner comme des petits débutants, un peu comme les habitants de la ville de Troie qui acceptèrent de la part des Grecs le fameux cheval en bois creux rempli de soldats ennemis. C'est à partir de cet incident que les Édomites, chassés de chez eux, commencèrent à s'installer dans le sud du royaume de Juda, une région qui en grec s'appelle l'Idumée. Je continue le texte. En ce jour-là, l'Éternel le déclare, « Je vais faire périr tous les sages d'Édom, je ferai disparaître tout le discernement de la montagne d'Ésaü. » Verset 8. Les sages constituaient l'élite intellectuelle et sociale du pays. Parmi eux se recrutaient les hauts fonctionnaires, les politiciens, les diplomates, les stratèges militaires et les conseillers du roi. Tout le gratin, en somme. Les Édomites étaient réputés pour posséder un bon sens pratique qui avait contribué à leur prospérité, mais aussi à leur arrogance. En effet, ils avaient une confiance totale et absolue dans le savoir-faire de leurs dirigeants et dans la protection qu'offraient les creux des rochers qu'ils occupaient. Et puis, ils adoraient suffisamment de divinités qui étaient censées veiller sur eux. Comme ils s'imaginaient être pour toujours à l'abri d'une mauvaise surprise, ils faisaient un gros complexe de supériorité. Mais parce que Dieu a décidé de juger Édom à cause de son orgueil démesuré, en ce jour-là, les sages seront surnaturellement aveuglés et perdront toute la prudence qui les caractérisait. Il ne viendra alors à l'idée de personne que les Nabatéens pourraient avoir préparé un traquenard et ce sera la fin du royaume d'Ésaü. Le prophète Ésaïe explique le jugement de Babylone, mais il pourrait très facilement s'appliquer à Édom. Je le résume. Tu plaçais ta confiance dans ta méchanceté, tu disais « personne ne me voit », ta sagesse et ta science t'ont induite en erreur. Tu disais en ton cœur, « Moi et rien que moi, mais le malheur fondra sur toi et tu ne sauras pas comment le conjurer. Oui, une catastrophe t'arrivera et tu ne pourras pas la détourner de toi. Une dévastation dont tu n'as pas idée viendra subitement sur toi. » Fin de citation. Je continue le texte d'Abdias. « Tes guerriers, ô Théman, seront pris de panique, si bien qu'au grand massacre, tout homme sera retranché de la montagne d'Ésaü. » Verset 9. Théman était le petit-fils d'Ésaü, probablement son premier. C'était aussi le nom de l'un des principaux districts du pays d'Édom. Le plus intelligent des trois faux amis de Job était originaire de Théman. Mais ici, ce mot représente la nation dans sa totalité. Les guerriers édomites étaient des soldats accomplis, un peu comme ceux de Sparte, mais une fois encerclés par les Nabatéens, ils ne pourront rien faire sinon mourir. Je continue le texte. « Tu t'es montré violent envers Jacob, ton frère. C'est pourquoi tu seras couvert de honte et tu disparaîtras à tout jamais. » Verset 10. Nous arrivons à la deuxième section de la première partie du livre d'Abdias. Après avoir annoncé la ruine d'Édom, l'auteur va maintenant en exposer les raisons. Jacob représente les habitants de Juda et pour bien souligner l'horreur de la conduite des Édomites envers leurs frères de sang, Abdias a placé ensemble les mots « violent » et « frère ». Les méfaits d'Édom sont d'autant plus répréhensibles qu'il s'agissait de crimes commis contre un peuple frère puisque Ésaü, l'ancêtre des Édomites, était le frère jumeau de Jacob, le patriarche fondateur des Israélites. Édom s'est réjoui du malheur de son frère, le peuple de Juda, et a profité d'une invasion ennemie par les Philistins et les Arabes pour piller Jérusalem et piéger les rescapés afin de les massacrer ou de les vendre. Pour ces crimes, Édom subira la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent. Abdias dit plus loin, « On te traitera comme tu as traité les autres. Le mal que tu as fait retombera sur toi. » Tout comme il y a des lois universelles, comme celle de la pesanteur, par exemple, il en existe également dans le domaine moral. Jésus a dit, « Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez vous-même pardonnés. » Cet enseignement du Seigneur se résume dans la cinquième béatitude de Matthieu qui dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » En effet, être miséricordieux, ce n'est pas seulement avoir de la compassion pour les démunis, mais aussi savoir pardonner à autrui. Cependant, pardonner est un comportement illogique et paradoxal. Et puis, il nous faut répondre à trois questions. Dois-je pardonner à mon prochain comme Dieu me pardonne? Ou bien, dois-je pardonner d'abord pour ensuite recevoir moi-même le pardon? Ou encore, est-ce que Dieu me pardonne afin que je puisse moi-même pardonner à ceux qui m'ont fait du tort? En fait, ces trois possibilités figurent dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus enseigne à ses disciples comment prier, il leur dit « Priez ainsi, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. » Ici, les pardons divins et humains ont lieu simultanément ou en parallèle. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit « Pardonnez, vous serez vous-même pardonnés. » Et un peu plus loin, il enseigne à ses disciples de prier en disant « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. » D'après ces passages, il faut que je pardonne aux autres afin que Dieu me pardonne. Enfin, dans l'histoire du serviteur impitoyable, ce dernier a été condamné parce qu'ayant été acquitté de son énorme dette, il a refusé de pardonner une dette minime à son prochain. Dans le même ordre d'idées, l'apôtre Jean écrit « Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » En d'autres mots, c'est Dieu qui fait le premier pas vers l'homme, attendant de lui une réponse en retour. Ces trois formes de pardon ne peuvent pas s'accorder logiquement et pourtant elles sont bel et bien présentes dans les Écritures. Dieu nous pardonne sans condition, mais si nous refusons de pardonner à ceux qui nous font du mal, nous en pâtirons. Pardonner à quelqu'un qui vous a profondément meurtri est extrêmement difficile, mais refuser de pardonner alimente la rancune et attise le désir de vengeance, ce qui entretient un processus d'autodestruction. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde de la part du Père des miséricordes dans tous les domaines de leur vie. Aux Hébreux qui s'apprêtaient à entrer en possession du pays promis, Dieu avait ordonné de ne pas avoir de haine contre les Édomites parce qu'ils étaient frères. Mais cette civilité ne fut jamais réciproque. Depuis l'époque de Moïse, par rancune et par envie pour les privilèges dont les Israélites jouissaient, les descendants d'Ésaü entretenaient une haine féroce contre la race d'Israël. Ils avaient été soumis par le roi David, mais à l'époque de Joram, roi de Juda, ils avaient regagné leur indépendance et cherchaient sans cesse une opportunité de se venger et de faire du mal aux Israélites. À cause des actes odieux qu'ils ont commis, les Édomites, qui étaient un peuple fier et arrogant, seront couverts de honte après avoir été eux-mêmes trahis et massacrés par les Nabatéens, qui étaient à la solde des Babyloniens. Comme je l'ai déjà dit, une fois leur capitale Pétra conquise, ils furent chassés de leur territoire et les rescapés s'installèrent dans le sud de Juda, une région appelée Idumée. Mais ce ne fut que le commencement de leur malheur. Le prophète Malachie écrit « Édom peut bien dire, nous avons été démolis, mais nous rebâtirons ce qui n'est plus que ruine. Mais le Seigneur des armées célestes déclare, eux, ils rebâtiront, moi, je démolirai. On appellera leur pays le territoire de la méchanceté, le peuple contre qui toujours l'Éternel sera en colère. » À partir du deuxième siècle avant notre ère, à l'époque des Maccabées, du nom de la famille de prêtres qui dirigeait Juda, les Édomites furent cruellement persécutés par les Juifs. Finalement, les Romains mirent un terme définitif à leur existence en tant que peuple. Quelques-uns trouvèrent refuge dans des tribus du désert où ils furent absorbés et disparurent. Je continue le texte d'Abdias. « Car tu étais présent en ce jour où des étrangers emportaient ses richesses, lorsque des étrangers pénétraient dans sa ville et en tirant au sort se partageaient entre eux le butin de Jérusalem. Oui, toi aussi, tu as agi comme eux. » Verset 11. Abdias fait ici référence à une incursion récente, encore très présente dans les esprits. À partir d'ici et jusqu'au verset 14, en hébreu, Abdias utilise 10 fois l'expression « en ce jour » ou « au jour de ». Cette répétition saccadée fait penser à des vagues ennemies qui multiplient les exactions contre Jérusalem. Après avoir accusé les Édomites d'actes de violence, Abdias leur reproche d'avoir participé à un tirage au sort odieux. À cette époque, après une conquête, la coutume était pour les vainqueurs de se partager ainsi tout le butin, autant les richesses récupérées que les personnes. Je continue le texte. « N'arrête pas tes regards sur le jour de ton frère, le jour de sa calamité. » Ne te réjouis pas au sujet des fils de Juda, au jour de leur ruine. N'ouvre pas tout grand ta bouche, au jour de la détresse. » Verset 12. Abdias dresse une liste des méfaits commis par les Édomites à l'encontre des Israélites et en même temps, il leur lance un avertissement. Il parle d'un événement passé, mais il a également à l'esprit une catastrophe future qui est la destruction complète de Jérusalem par Nabuchodonosor. Pour cette raison, il utilise le présent prophétique qui a le sens suivant. « Ce que tu as fait, tu n'aurais jamais dû le faire, et il ne faudra jamais le refaire si l'occasion s'offrait encore à toi, afin de ne pas aggraver ton cas et ton jugement. » Il y a une progression dans la description que fait Abdias de la culpabilité des Édomites. D'abord, le regard satisfait de constater la défaite des Israélites, puis la jubilation de les voir souffrir, et en troisième lieu, le malin plaisir de les insulter et de les railler. Cette progression se poursuit dans les versets suivants. Je continue le texte. « N'entre pas dans la ville de mon peuple au jour de sa calamité. N'arrête pas tes regards, toi aussi, sur son malheur au jour de sa calamité, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa calamité. » Verset 13. La triple répétition de « au jour de sa calamité » sert à souligner, d'une part, combien cette invasion était catastrophique, et d'autre part, la gravité du comportement coupable des Édomites. Ici, Abdias leur reproche d'avoir profité de l'attaque de Jérusalem par les Philistins et les Arabes pour se joindre à eux et pénétrer dans Jérusalem conquise. Une fois à l'intérieur de la ville et voyant la détresse des habitants, ils se sont encore réjouis davantage du malheur de Juda, puis ont activement participé au pillage de ses richesses. Je continue. « Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses rescapés et ne livre pas ses survivants au jour de la détresse. » Verset 14. Tout au long de sa diatribe contre les Édomites, Abdias utilise de nombreux termes incisifs pour mieux accentuer d'une part le grand malheur qui a frappé les habitants de Jérusalem et d'autre part la perfidie des Édomites. Comme ils étaient voisins des Israélites, ils connaissaient toutes les voies d'accès dissimulées qui menaient au maquis ou dans le désert. Ils ont alors mis le comble à leur conduite criminelle en piégeant les Judéens qui essayaient d'échapper à leurs ennemis et les ont soit tués, soit faits prisonniers pour les livrer aux marchands étrangers qui les revendront comme esclaves. Cette cruauté est horrible, mais le pire est que de telles exactions se répètent encore aujourd'hui en bien des lieux de notre planète.